VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 15h à Bujumbura, 13h à Ouagadougou. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité en ce vendredi 16 octobre 2015. Au Burkina Faso, après plusieurs semaines d'investigation, 23 personnes ont été inculpées dans l'affaire du coup d'État du 16 septembre. Parmi elles figurent en premier lieu le général Gilbert Diendéré, chef de file des putschistes. D'après le colonel Sita Sangaré, qui a tenu sa première conférence de presse ce vendredi, en tant que nouveau directeur de la justice militaire, le général Gilbert Diendéré est inculpé de 11 chefs d'accusation, dont celui de crime contre l'humanité. Il risque la peine de mort, d'après Sita Sangaré, qui rappelle que la peine capitale n'est pas encore abolie au Burkina Faso. Quant à l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, le général Djibril Bassolé, il est inculpé de 6 chefs d'accusation. Le coup d'État de septembre dernier a fait, selon un bilan officiel, 14 morts et quelques 250 blessés. Parmi les civils inculpés, il y a Léonce Conné du Congrès pour la démocratie et le progrès et Herman Yameogo, également de l'ancienne mouvance présidentielle. La femme du chef putschiste, l'ancienne députée Fatou Diendéré, aujourd'hui en fuite au Togo, est également dans le collimateur de la justice, comme nous le signale notre envoyé spécial Bagassi Koura. Toujours concernant le putsch, une perquisition a bel et bien eu lieu au domicile de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Pour le dossier Thomas Sankara, le juge militaire apporte que 8 personnes ont été inculpées, 4 sont sous mandat de dépôt et les 4 autres sont en liberté. En Guinée, le président sortant Alpha Condé s'acheminait ce vendredi vers une réélection au premier tour de la présidentielle, déjà récusée par l'opposition qui crie à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés, y compris les manifestations. Les derniers développements avec Eric Manirakiza.
La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme inquiètent du risque de violence post-électorale fréquente en Guinée, exhortent les candidats à régler leurs litiges devant les tribunaux et non dans la rue. Selon les résultats provisoires partiels proclamés ces deux derniers jours par la Commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé obtenait 1,95 million de voix, soit environ 60% des suffrages exprimés sur plus des trois quarts des électeurs inscrits. Les derniers résultats attendus ce soir concernent les deux communes les plus peuplées de Conakry, dont les banlieues favorables à l'opposition, ainsi que les préfectures de Pita, dans le centre, et de Kindia, à l'est de la capitale, et de quelques ambassades à l'étranger. La commission électorale ayant donné une estimation de participation moyenne de 75%, la majorité absolue des suffrages devrait avoisiner les 2,25 millions de voix telles que le rapporte l'AFP. Les Guinéens ont voté dans le calme le 11 octobre, mais sous tension, la campagne de M. Condé visant une réélection au premier tour. Un objectif jugé par ses adversaires irréalisable sans fraude caractérisée 5 ans après sa victoire à l'arraché au second tour sur le chef de l'opposition, Selou Dalène Diallo.
Eric Manirakiza, merci bien. Toujours en Guinée, 2 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le pays n'avait plus détecté de nouveaux cas depuis 2 semaines. C'est très décevant, a dit Madame Margaret Harris, une porte-parole de l'OMS. Le premier cas, une femme, a été enregistré le 13 octobre à Ratoma, dans la banlieue de Conakry. L'autre a été détecté le 14 octobre lors d'analyses post-mortem sur un homme dans la région de Fort Kariya. Au Burundi, un policier a été tué hier soir dans le quartier de Musaga, au sud de la capitale, selon le porte-parole de la police. Un autre policier a été blessé. 3 grenades ont été lancées sur une position policière vers minuit, d'après la même source, qui ne donne pas de bilan du côté de la population. Les quartiers de Kinindo et de Musaga ont connu une perquisition de la police et il était impossible de sortir ou d'entrer dans ces quartiers. Au Cameroun, le président Paul Biya a salué hier l'engagement militaire américain dans le nord de son pays. L'objectif, aider les autorités camerounaises à lutter contre les islamistes nigérians de Boko Haram. Dili Diko.
Dans une déclaration officielle, le président Biya a expliqué que dans le cadre de la mobilisation globale contre le terrorisme international et notamment de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les gouvernements américains et camerounais ont convenu du déploiement d'un détachement de personnel de l'armée américaine chargé de conduire des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le déploiement des forces américaines a commencé. Elles seront basées à Garoua, chef-lieu de la région Nord. 90 militaires sont sur place depuis lundi. Et mercredi, Barack Obama a annoncé que la contribution s'élèverait à 300 militaires. L'annonce de l'intervention américaine a également été saluée par le Nigeria et qualifiée d'évolution bienvenue dans la lutte contre l'insurrection. Le Cameroun et ses États limitrophes, le Tchad, le Niger et le Nigeria, forment une coalition contre les insurgés qui sont à l'origine de plusieurs attentats. Ce dimanche, un double attentat suicide perpétré par deux femmes kamikazes a frappé l'extrême nord du Cameroun, faisant au moins 9 morts.
Également dans l'actualité africaine, l'armée kényane annonce avoir libéré une institutrice qui avait été kidnappée en début de semaine par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab à Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde dans le nord-est du Kenya. Judy Mutua, de nationalité kényane, avait été emmenée à environ 15 km à l'intérieur du territoire somalien par des membres du mouvement affilié à Al-Qaïda. Mais une action conjointe ce matin de l'armée kényane et des troupes gouvernementales somaliennes a permis la libération de l'institutrice. Un des kidnappeurs a été tué et l'autre arrêté.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, l'heure est à la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du 25 octobre. Les exemplaires du projet de constitution sont maintenant disponibles. Et tandis que les manifestations pour ou contre le référendum se multiplient dans les grandes villes du pays, les membres de la société civile, eux, analysent la nouvelle charte fondamentale. De Brazzaville, le compte-rendu de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Dans l'opinion, les avis restent partagés sur l'avènement d'une nouvelle constitution. Si les uns pensent qu'il faut aller vers une nouvelle république, d'autres estiment qu'il ne faut pas du tout changer la constitution.
Le référendum, pour bien voir, ce n'est pas bon pour nous parce que nous sommes la population. C'est nous qui avons le droit de dire non à la constitution, à la référendum. Le président Sassou, il a beaucoup commandé, il a beaucoup médité. Aujourd'hui, nous parlons. Nous, on était des petits. Moi, j'étais en CE2. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Mais il est toujours au pouvoir. Sur la démocratie, nous, on veut qu'il quitte.
Il a mis une concession en place, mais il est en train de violer ça. On doit suivre le règle. Le référendum, non, non. Il n'y a pas de vote.
C'est au milieu de cette semaine que la copie de la nouvelle constitution a commencé à circuler à Brazzaville. 246 articles consacrant la séparation de pouvoir avec l'institution d'un premier ministre. Un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois pour le président de la République qui ne sera plus gêné par la limitation d'âge. Mais pour Trésor Dila Kende, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, la nouvelle constitution est un recul pour la démocratie congolaise.
Des dispositions, par exemple l'article 10, qui dit que si un citoyen congolais ne perd pas la nationalité, il ne peut pas être extradé vers une puissance étrangère, il ne peut pas être extradé vers une juridiction internationale. L'actuelle constitution dit que l'État a le devoir de protéger tout citoyen congolais qui est réclamé par une juridiction internationale. Alors là, ça nous inquiète et c'est vraiment un recul parce qu'on ouvre là un grand boulevard à des individus de commettre les graves violations des droits humains parce qu'ils ne seront pas inquiété parce que l'État a le devoir de le protéger, de ne pas l'extrader. La constitution du 20 janvier 2002, en vigueur actuellement, consacre le principe du droit à la vie. Dit que la personne humaine est sacrée et aucune circonstance ne peut justifier qu'on ôte la vie à un individu. Donc le fait de dire noir sur blanc que la peine de mort est abolie, ça ne justifie pas le changement de la constitution parce que la constitution en vigueur est pour l'abolition de la peine de mort.
La campagne du oui pour une nouvelle constitution le 25 octobre prochain se poursuit dans le pays, se heurtant parfois aux manifestations de ceux qui ne veulent pas du tout d'un référendum constitutionnel. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En bref, pour terminer, la Fédération anglaise de football a suspendu son soutien à Michel Platini en tant que candidat à la présidence de la FIFA et ce jusqu'à la fin des procédures judiciaires en cours. Voilà, c'était Jacques Aristide à Washington. Je vous retrouve dans 50 minutes.
Soyez
à tout à l'heure.
De l'info sur VOA Afrique.